Chapitre 12. J'ai pris l'US-1, direction le sud. J'ai mangé dans un certain nombre de restaurants en bordure de route annonçant cuisine maison, où l'on pouvait se régaler d'un plat du jour, avec coupelle de fruits en entrée et tarte à la mode au dessert, pour la modique somme de 80 cents. Je n'ai pas vu une seule franchise de fast-food sur ma route, sauf si vous comptez dans le lot la chaîne de restaurants Howard Johnson's, omniprésent, avec leurs 28 parfums de crème glacée et leur mignon logo du petit Simon, du chien et du pâtissier. J'ai vu une troupe de Boy Scouts et leur chef brûler des feuilles mortes. J'ai vu des femmes en imperméables et chaussées de caoutchouc rentrer précipitamment leur linge par un après-midi de grisaille alors que la pluie menaçait. J'ai vu de longs trains de passagers portant des noms tels que le Southern Flyer et le Star of Tampa rouler vers ces régions de l'Amérique où l'hiver est interdit de séjour. J'ai vu des vieux mecs fumer la pipe sur des bancs dans des jardins publics. J'ai vu 1 million d'églises et un cimetière dans lequel une assemblée d'au moins 100 personnes faisait cercle autour d'une fosse en chantant « The Old Rugged Cross ». J'ai vu des hommes construire des granges. J'ai vu des gens s'entraider. Deux d'entre eux, à bord d'une camionnette, se sont arrêtés pour me porter assistance quand le radiateur de la Sunliner s'est percé et que je me suis retrouvé en rade sur le bas-côté. C'était en Virginie, autour des 4 heures de l'après-midi, et l'un d'eux m'a demandé si j'avais besoin d'un endroit où dormir. Je suppose que cette scène pourrait se produire en 2011, mais j'ai un doute. Et encore une chose. En Caroline du Nord, je me suis arrêté pour faire le plein dans une station-service Humble Oil. Puis j'ai tourné le coin pour aller utiliser les toilettes à l'arrière. Il y avait 2 portes et 3 écriteaux. « Messieurs », nettement imprimé au pochoir sur une porte, « Dames » sur l'autre, et le 3e était apposé sur une flèche tournée vers la pente broussailleuse derrière la station. L'écriteau indiquait « gens de couleur ». Curieux, j'ai descendu le sentier, en prenant soin de me faufiler de biais en plusieurs endroits où les feuilles huileuses du sumac vénéneux d'un verre tirant sur le lit de vin étaient aisément reconnaissables. J'espérais que les papas et les mamans susceptibles de conduire leurs enfants vers les cabinets prévus pour eux en contrebas étaient capables de reconnaître ces arbustes dangereux. Car dans les années 50, la plupart des enfants étaient en jupe et en culotte courte. Il n'y avait pas de cabinet. Au bout du sentier, je suis tombé sur un tout petit ruisseau avec une planche posée en travers sur 2 blocs de béton effrité. Un homme qui voulait uriner pouvait simplement se tenir debout sur la berge, ouvrir sa braguette et lâcher les vannes. Une femme pouvait se tenir à un buisson, à condition que ce ne soit ni un sumac ni un chêne vénéneux, et s'accroupir sur la berge. Quant à la planche, c'était tout ce qui était prévu pour s'asseoir en cas de grosse commission. Idem sous une pluie battante. Si jamais je vous ai donné l'idée qu'en 1958, tout n'était qu'âge tendre et tête de bois, rappelez-vous le sentier dans les broussailles, d'accord? Bordé de sumac vénéneux. Et de la planche en travers du ruisseau. Je me suis installé à 60 kilomètres au sud de Tampa, dans la ville de Sunset Point. Pour $80 par mois, j'ai loué un cabanon sur la plus belle et quasi déserte plage que j'ai jamais vue. Il y avait 4 cabanons identiques sur mon petit lopin de sable, tous aussi modestes que le mien. Je n'ai aperçu aucune de ces horribles McMansion nouveau riches qui pousseraient plus tard comme des champignons de béton dans cette partie de l'État. Il y avait un supermarché à 10 kilomètres au sud, à Nokomis, et un quartier commerçant paisible à Venice. La route 41, surnommée la Tamiami Trail, n'était guère plus qu'une route de campagne. Il fallait y rouler lentement, surtout à l'approche du crépuscule quand les alligators et les tatous aimaient la traverser. Entre Sarasota et Venice, la route était bordée d'étals de fruits et de marchés fermiers, ponctués de quelques bars et d'un dancing, le Blackie. Passé Venice, mon frère, tu étais livré à toi-même, du moins jusqu'à ton arrivée à Fort Myers. J'ai laissé derrière moi mon personnage de George Amberson, l'agent immobilier. Au printemps 1959, une période de récession touchait les États-Unis. Sur la Gulf Coast de Floride, tout le monde vendait et personne n'achetait. Aussi, George Amberson était-il devenu exactement ce qu'avait prévu Hal. Un aspirant écrivain à qui un oncle suffisamment riche avait laissé de quoi vivre, du moins pendant un certain temps. Et j'ai écrit. Pas un seul livre, mais deux. Le matin, c'est là que j'étais le plus frais, j'ai commencé à travailler sur le manuscrit que vous lisez en ce moment. Si jamais quelqu'un me lit un jour. Le soir, je travaillais sur un roman que j'appelais provisoirement « La ville assassine ». La ville en question était Derry, évidemment, bien que je l'ai renommée Dawson dans mon livre. Je l'ai commencé uniquement en guise de camouflage, pour avoir quelque chose à montrer au cas où je me ferais des amis et que l'un d'eux demande à voir sur quoi je travaillais. Je gardais mon manuscrit du matin dans un coffre-fort sous mon lit. Finalement, le texte de la ville assassine est devenu plus qu'un camouflage. J'ai commencé à le trouver bon et à rêver qu'un jour il puisse être publié. Une heure sur mon mémoire le matin, une heure sur mon roman le soir, cela laissait encore beaucoup de temps à remplir. Je me suis essayé à la pêche et il y avait des quantités de poissons à attraper. Mais je n'aimais pas ça, alors j'ai laissé tomber. La marche était une activité agréable à l'aube et au crépuscule, mais pas sous la forte chaleur de la journée. Je suis donc devenu client d'une des librairies de Sarasota et j'ai passé de longues heures, heureuses pour la plupart, dans les petites bibliothèques de Nokomis et d'Osprey. J'ai lu et relu aussi les notes de Hal sur Oswald. Puis, j'ai fini par m'apercevoir du caractère obsessionnel de ce comportement et exilai le carnet bleu dans le coffre-fort en compagnie de mon manuscrit du matin. J'ai qualifié ces notes d'exhaustives, et c'est bien ainsi qu'elles m'apparaissaient alors. Mais à mesure que le temps, ce tapis roulant sur lequel nous devons tous progresser, me rapprochait du point où ma vie était censée converger avec celle du futur jeune assassin, elles commencèrent à perdre de cette qualité. Elles comportaient des trous. Parfois, je maudissais Hal de m'avoir forcé, bon gré mal gré, à me lancer dans cette mission. Mais dans mes moments de plus grande lucidité, je comprenais que disposer de plus de temps pour me décider n'aurait rien changé à l'affaire. Ça n'aurait peut-être fait qu'aggraver les choses, et probablement que Hal le savait. Même s'il ne s'était pas suicidé, je n'aurais bénéficié que d'une semaine ou deux de sursis. Et combien de livres ont-ils été écrits sur l'enchaînement des événements qui ont conduit à ce fameux jour de Dallas? 100? 300? Probablement plus d'un millier. Certains partageaient la conviction de Hal qu'Oswald avait agi seul. D'autres affirmant que ce dernier faisait partie d'une conspiration élaborée. D'autres encore soutenant avec une certitude absolue qu'il n'avait pas appuyé sur la gâchette et qu'il était exactement ce que lui-même avait déclaré après son arrestation, un bouc émissaire. En se suicidant, Hal avait coupé court à la pire des faiblesses pour un chercheur, qualifié son hésitation de recherche. J'ai effectué quelques déplacements à Tampa, où une investigation discrète m'a mené chez un bookmaker du nom d'Eduardo Gutiérrez. Quand il a été sûr que je n'étais pas flic, il a été ravi de prendre mes paris. J'ai d'abord parié que les Lakers de Minneapolis battraient les Celtics dans les séries de championnat de 59. Ceci afin d'établir ma réputation de gogo. Les Lakers, cette année-là, ne remportèrent pas un seul match. J'ai aussi parié $400 que les Canadiens battraient les Maple Leafs dans les séries de la Stanley Cup. Et ils ont gagné. Mais c'était juste une compensation financière. De la monnaie de singe, cousin, comme aurait dit mon pote Jazz Fratty. Mon plus gros coup, je l'ai joué au printemps 1960, quand j'ai parié sur la victoire de Venetian Way devant Ballyhatchie, le grand favori dans le derby du Kentucky. Gutiérrez m'avait annoncé qu'il me donnerait du 4 contre 1 sur un simple canasson et du 5 contre 1 sur un double canasson. J'avais opté pour le double, après avoir émis tous les claquements de langue et reniflements d'hésitation de rigueur, et j'en suis sorti plus riche de 10 000 $. Il a allongé la monnaie avec une bonne humeur à la Frati, mais il y avait dans ses yeux une lueur assassine qui ne m'a pas plu. Gutiérrez était un Cubain qui ne devait pas peser plus de 70 kilos tout mouillé, mais c'était aussi un expatrié de la mafia de la Nouvelle-Orléans, dirigé à cette époque par un mauvais garçon du nom de Carlos Marcello. J'eus vent de ces racontars dans la salle de bière voisine de la boutique de barbier où Gutiérrez conduisait ses activités, lesquelles comprenaient la pratique apparemment ininterrompue du poker dans une arrière-salle derrière la photo d'une Diana d'Ors très dévêtue. Le type avec lequel je venais de faire une partie de billard se pencha vers moi, vérifia d'un regard circulaire que nous étions seuls à la table du coin et me glissa «
Tu sais ce qu'on dit sur la mafia, George. Tu mets le pied dedans, t'en sors plus que les pieds devant. »
J'aurais aimé avoir l'occasion de parler à Gutiérrez de ses années à la Nouvelle-Orléans, mais je pense qu'il n'aurait pas été raisonnable de me montrer trop curieux, surtout après le pactole que j'avais ramassé dans le derby. Si j'avais osé le faire, et si j'avais trouvé une manière plausible d'aborder le sujet, j'aurais demandé à Gutiérrez s'il avait fréquenté un autre membre supposé de l'organisation de Marcello, un ex-boxeur du nom de Charles Dutz Murray. J'ai tendance à penser que la réponse aurait été oui, car le passé s'harmonise avec lui-même. L'épouse de Dutz Murray était la sœur de Marguerite Oswald, ce qui faisait de lui l'oncle de Lee Harvey Oswald. Un jour du printemps 1959, il y a un printemps en Floride. Les autochtones m'ont assuré qu'il dure parfois une semaine entière. J'ai trouvé, en ouvrant ma boîte aux lettres, une carte de la bibliothèque publique de Nokomis. J'avais réservé un exemplaire de La Désenchantée, le nouveau roman de Bud Schulberg, et le livre venait de rentrer. J'ai sauté dans ma Sunliner. On ne pouvait pas rêver meilleure voiture pour un endroit qui commençait alors à gagner le nom de Suncoast, et j'ai filé le chercher. En sortant, j'ai avisé une nouvelle affiche sur le tableau surchargé dans l'entrée. J'aurais eu du mal à la manquer. Elle était bleu vif et montrait un personnage de bande dessinée en train de frissonner en regardant un thermomètre géant où le mercure marquait 10 au-dessous de zéro.
« Vous avez un problème de degré ?» demandait la légende.
« Vous pourriez être admissible au certificat par correspondance du United College d'Oklahoma. Écrivez pour plus de détails. » Le United College d'Oklahoma me paraissait aussi louche que la mafia de la Nouvelle-Orléans, mais leur proposition m'a donné une idée. Essentiellement parce que je m'ennuyais. Oswald était encore dans les Marines et ne serait pas démobilisé avant septembre, et ensuite il s'embarquerait immédiatement pour la Russie. Sa première démarche serait une tentative de renoncement à sa citoyenneté américaine. Il échouerait. Mais après une tentative de suicide tapageuse, et sans doute factice dans un hôtel de Moscou, les Russes l'autoriseraient à rester dans leur pays. À l'essai, pour ainsi dire. Il y séjournerait 2 ans et demi environ, travaillant à Minsk dans une usine métallurgique. Et un soir, à une fête, il rencontrerait une jeune fille nommée Marina Proussakova. Robe rouge, ballerine blanche, avait écrit Hall dans ses notes. Jolie, habillée pour danser. Tant mieux pour lui. Mais moi, qu'allais-je faire en attendant? Le United College m'offrait un débouché. J'ai donc écrit pour obtenir plus de détails et reçu une réponse rapide. Leur catalogue inventoriait une pléthore de diplômes. J'ai découvert avec fascination que pour la bagatelle de 300 $, espèce ou mandat postal, je pouvais recevoir une licence d'anglais. Tout ce que j'avais à faire était de passer un test composé de 50 questions à choix multiples. J'ai rempli le mandat, dit mentalement au revoir à mes 300 $ et expédié ma candidature. Deux semaines plus tard, je recevais une mince enveloppe en papier Kraft en provenance de United College. À l'intérieur, deux feuillets mal polycopiés. Les questions étaient merveilleuses. Voici mes deux préférées. Question 22. Quel était le nom de famille de Moby? A. Tom. B. Dick. C. Harry. D. John. Question 37. Qui a écrit « La maison aux sept lorgnons » A. Charles Dickens. B. Henry James. C. Anne Bradstreet. D. Nathaniel Hawthorne. E. Aucun des quatre. Après ma lecture jubilatoire de ce merveilleux QCM, je suis passé aux réponses. Non sans m'exclamer régulièrement « Non mais c'est pas vrai, vous déconnez !» Et je l'ai renvoyé à Enid, en Oklahoma. J'ai reçu une carte postale par retour du courrier me félicitant d'avoir réussi mon examen. Mon diplôme me serait envoyé, m'était-il notifié, dès que j'aurais réglé les $50 de frais de dossier. Ainsi fut fait. Et le diplôme arriva, tamponné d'un sceau d'or impressionnant. Il avait bien meilleure mine que l'examen qui me l'avait valu. Lorsque je l'ai présenté à la commission scolaire du comté de Sarasota, le responsable l'a accepté sans poser de questions et m'a inscrit sur la liste des remplaçants. Voilà comment je me suis retrouvé à enseigner de nouveau un ou deux jours par semaine pendant l'année scolaire 1959-1960. C'était bon de retrouver le lycée. J'appréciais mes élèves. Garçons à la coupe en brosse et filles à queue de cheval en jupe corolle à mi-mollet. Même si j'étais intensément conscient que les visages qui me faisaient face dans les différentes classes étaient tous de la plus pure couleur vanille. Mes débuts en qualité de remplaçant me permirent de renouer avec un élément fondamental de ma personnalité. J'aimais écrire, et j'avais découvert que j'étais doué pour ça. Mais ce que j'aimais le plus, c'était enseigner. Cela me comblait d'une façon que je ne saurais expliquer, ou que je ne souhaite pas expliquer. Les explications, c'est de la poésie trop bon marché. Mon plus beau jour de remplaçant, je l'ai vécu au lycée de West Sarasota, après avoir raconté à mes élèves de littérature américaine l'argument de base de l'attrape-cœur de Salinger, livre qui bien sûr n'était pas autorisé à la bibliothèque de l'école et aurait été confisqué à tout élève qui l'aurait introduit dans ce sanctuaire, et les avoir invités à discuter du grief principal de Holden Caulfield, à savoir qu'en Amérique, tout était factice, de l'école aux adultes en passant par la vie en général. Les gamins s'y sont mis lentement. Mais au moment où la cloche a sonné, tout le monde voulait parler en même temps. Et quelques-uns ont même risqué d'arriver en retard à leur cours suivant pour pouvoir délivrer leur opinion définitive sur ce qui n'allait pas dans la société qu'ils voyaient autour d'eux et la vie que leurs parents avaient prévue pour eux. Leurs yeux brillaient. Ils avaient les joues empourprées d'excitation. J'étais sûr qu'il y aurait une ruée sur certains livres de poche rouge vif dans les librairies de la région. Le dernier à quitter la classe fut un gamin costaud en maillot de football. Je trouvais qu'il ressemblait à Big Moose dans les bandes dessinées d'Archie. « Si seulement vous étiez là tout le temps, Monsieur Humberson » m'a-t-il dit avec son plaisant accent du Sud. « C'est vous que j'aime le plus !» Il ne se contentait pas de m'aimer. Il m'aimait le plus. Entendre ces mots de la bouche d'un gamin de 17 ans qui semble complètement éveillé pour la première fois de sa vie de lycéen, c'est vraiment le plus beau cadeau qui soit. Plus tard, ce mois-là, le proviseur me convoqua dans son bureau, me gratifia de quelques aménités, m'offrit un soda, puis me demanda « Mon ami, êtes-vous un élément subversif ?» Je le rassurai sur ce point. Je lui dis que j'avais voté pour Ike Eisenhower. Il parut satisfait, mais me suggéra de m'en tenir à l'avenir à la liste de lectures généralement admises. Les coupes de cheveux changent, la longueur des jupes, l'argot aussi, Mais l'administration des lycées?
Jamais.